Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, faite à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais toujours disponible en librairie. Alors, nous avons vu la dernière fois ce qu'il en était de la persona ou du masque social que chacun porte sur sa figure, hein, persona, le masque de l'acteur. Hein. Donc, en société, nous jouons un rôle, nous sommes des hypocrites, au sens grec du mot hypocrites qui veut dire acteur. Hein. Et finalement, cette persona colle souvent à la peau au point que nous nous identifions avec elle. Et effectivement, à l'opposé de la persona se situe ce que Jung appelle l'ombre, puisque ces deux notions, persona, masque social, d'où la personnalité sociale, et l'ombre, c'est-à-dire le refoulé dans l'inconscient, eh bien ce sont des notions jungiennes. Hein. Elles correspondent justement à l'opposition que fait Freud entre le surmoi ou idéal du moi, l'équivalent de la persona, le masque social, transmis par l'éducation, etc. Hein. Et puis le ça, hein. Freud dit le ça, S en allemand, c'est-à-dire l'inconscient, le refoulé. Donc le moi est pris entre le surmoi et le ça. De la même façon, l'individu pour Jung est pris entre la persona ou le masque social et l'ombre, son ombre. Alors qu'est-ce que c'est que l'ombre ? Elle nous attire toujours cette ombre. Hein. L'ombre, c'est ce que pour rien au monde, nous ne voudrions être dans notre conscient, c'est-à-dire dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous nous imaginons renvoyer aux autres selon les règles du jeu social. Alors d'habitude, nous nous imaginons en société évoluer comme dans un salon mondain, hein, où chacun s'applique à se contrôler. Nous nous efforçons de faire comme tout le monde, de jouer le jeu commun. Et cependant, alors je dirais poétiquement, qu'il y a en nous tout un cortège d'individus, sales et dépenaillés, qui nous harcèlent. Ce sont comme des petits lutins, des farfadets, des korrigans. Hein. C'est des petits démons familiers et quotidiens qui sont l'échec du masque social ou de la persona. En termes modernes, ce pourrait être les lapsus, les gestes manqués, toute la psychopathologie de la vie quotidienne, pour reprendre le titre d'un livre de Freud, hein, et tout ce qui échappe à la censure de la conscience. On dit quelque chose, ou bien on lit quelque chose, un mot à la place d'un autre, on se comporte bizarrement, certains gestes nous échappent, etc. Alors parfois ils sont grotesques, parfois ils sont menaçants, ces petits dérapages, hein. Ces infimes glissades ont une finalité quand même, une intentionnalité, malgré ce que croient les positivistes, pour lesquels ils sont absurdes. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est qu'il s'agit de détrôner le moi social et de restaurer un moi plus large et d'en permettre la recomposition. Je dirais donc que ces petits lutins malins sont les bugs du programme social. Bug, hein, comme on le dit en informatique. Hein. Le programme plante, vous voyez. Donc, alors, on assiste à la fin du salon mondain, hein, et on assiste à l'irruption du désordre. Vous avez peut-être vu le film de Joe Dante qui s'appelle Gremlins. Hein. Eh bien, les Gremlins, ce sont justement ces lutins, ces farfadets, ces korrigans que l'on ne peut pas maîtriser. Hein. Et dans le film, alors c'est remarquable parce que à un moment ils sont dans un cinéma, les Gremlins, et ils regardent Blanche-Neige. Donc ils font un pied de nez ironique à Walt Disney, vous voyez, hein. Il y a donc deux mondes, et un des deux mondes nie l'autre, hein. Ces deux mondes, c'est le salon mondain et le ruisseau, vous voyez. Nous sommes pris entre ces deux pôles, hein. Et à force de nier l'existence du ruisseau, hein, eh bien, nous sommes en quelque sorte fascinés par lui, et il est absurde de le nier, il est nié, yes, de nier justement l'existence du ruisseau. Hein. Bon, je m'inspire là-dessus d'un roman de Hermann Hesse, H-E-2-S-E, qui s'appelle Demian, D-E-M-I-A-N. Alors, de ces lutins, de ces farfadets, de ces korrigans, il faudrait rapprocher le duende des Espagnols. Le duende, c'est un génie malicieux et perturbateur de la maison, puisque duende, avec diphtongaison, est rattaché au latin domus, la maison. Hein. Donc le duende, c'est le bug, justement, dans le programme. Et c'est très important, cette notion de duende. Voyez par exemple le texte, la conférence de Lorca, qui s'appelle « Théorie et jeu du duende ». Le duende, pour Lorca, c'est l'essence même de la poésie, parce que il casse, le duende, ce qui est attendu, c'est-à-dire ce que la doxa, l'opinion sociale, l'opinion courante, nous propose comme réaction mentale face à telle ou telle situation. Hein. Alors, le duende recouvre aussi le flamenco, hein, ou le flamenco, et la tauromachie, hein. Il est nécessaire, dans le flamenco, c'est quand le cri s'échappe justement des entrailles du chanteur. Dans la tauromachie, c'est quand le torero fait une passe absolument imprévisible. Hein. Alors on casse tout ce qui est attendu. Et c'est nécessaire, le duende, parce que sinon l'œuvre va être médiocre. D'ailleurs le langage le dit, l'œuvre est médiocre quand elle ne casse rien. Vous voyez, quand on dit « ça ne casse rien », hein, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Donc pour que quelque chose soit intéressant dans la création artistique, il faut casser quelque chose. Hein. On dit aussi qu'il faut qu'il y ait quelque chose de frappant, vous voyez. Donc là, ce sont des termes très forts, dynamiques, là. Casser, frapper. Hein. Il faut que l'œuvre soit frappante. Hein. Alors, je pense au flamenco qui nous fait penser aussi bien dans le cri, dans le cri, dans le chant que dans la danse. Hein. La danse, c'est la gitane en feu, hein, naguère sur les paquets de gitane. Je sais bien qu'aujourd'hui le fumeur est diabolisé, hein. Il y avait cette gitane, la danseuse de flamenco en feu, hein, enflammée, vous voyez, hein. Et quand le chanteur de flamenco commence par le fameux aïe, hein, A-A-Y, c'est aïe, hein, c'est un cri qui vient des profondeurs, hein, comme le dit l'expression le cante rondo, le chant profond. Il faut que cela vienne des profondeurs de l'être et que cela casse ce que l'on attend. Par exemple, Lorca dit qu'une chanteuse très célèbre du flamenco en son temps, avant de chanter, avalait une rasade d'alcool violent pour se casser la voix, précisément, pour montrer qu'elle était dans la vie et non pas dans ce qu'on appelle le bel canto, hein, c'est-à-dire le beau chant. Hein. Le bel canto, il est anesthésiant et aliénant, et il vaut mieux peut-être le cri, le aïe chanteur de flamenco pour nous émouvoir. Vous voyez, à la limite du cri, on peut rapprocher les fameuses glossolalies d'Antonin Artaud. Hein. Le cri dont il avait coutume justement d'user, par exemple, quand il a été interné à l'asile de Rodez, eh bien, il criait justement comme cela. Hein. Alors, ça, tout ça, c'est très important. Et vous voyez qu'on est au rebours, hein, de quelque chose d'apollinien, de maîtrisé, de contrôlé. On est justement dans l'instinct pur. Thank you. Voilà. Pour bien illustrer ce que je viens de dire, il faut regarder par exemple l'opposition qu'il y a entre le génie de Socrate qui lui indiquait, le daimon, le démon, hein, qui lui indiquait ce qu'il ne devait pas faire, et le génie moderne qui n'est pas un génie prohibiteur mais un génie instigateur. Je pense par exemple au poème de Baudelaire dans Petits poèmes en prose, sont des poèmes d'humour grinçant hein, et déstabilisant. Par exemple, je pense à Assommons les pauvres, hein, le fameux génie instigateur dit au poète qu'il doit aller casser la figure à un mendiant dans la rue pour savoir si le mendiant va se redresser et retrouver sa dignité d'être humain. Alors le poète donc donne un coup de poing à ce mendiant, mais au miracle, le mendiant justement se relève et lui rend le coup de poing. Hein. Alors, dit Paul Baudelaire, je lui avais rendu sa dignité, je l'avais restauré justement en tant qu'être humain. Il y a un deuxième poème, j'aime beaucoup aussi, ces poèmes, des petits poèmes en prose sont très intéressants parce qu'ils sont grinçants, hein. Ce sont des poèmes nous montrent ce que je disais, le bug du programme social. Hein. Un poème comme Le mauvais vitrier, hein. Baudelaire, donc le poète se trouve à l'étage, il le voit dans la rue, il entend dans la rue passer un vitrier, vantant son chargement de vitres, hein. Alors il lui dit montez, alors le vitrier monte jusqu'à l'étage, avec difficulté, dans l'escalier, hein. Et puis le poète lui dit, mais vous, je voudrais des verres de couleur. Alors le vitrier dit, je n'ai pas de verres de couleur. Quoi, vous n'avez pas de verres de couleur? Alors vous êtes un mauvais vitrier, redescendez. Alors le bonhomme il redescend en grognant, de nouveau en se heurtant au mur de l'immeuble, et puis après lorsqu'il sort de la porte de l'immeuble, le poète prend un pot de fleurs qu'il lâche d'un seul coup. Le pot de fleurs vient détruire tout le chargement ambulatoire du vitrier et toutes les vitres sont cassées. Alors, qu'importe justement l'éternité de la damnation, dit le poète à la fin, à celui qui a senti dans quelques secondes l'infini de la jouissance. Alors, il faut comprendre justement que ce daimon, ce démon qui nous pousse à faire quelque chose d'imprévisible et que la doxa condamne, que l'idéologie sociale condamne, c'est finalement quelque chose qu'il faut respecter, qui existe en chacun de nous, vous voyez. Donc il existe des écroulements soudains et imprévisibles de la persona. Nous ne sommes pas toujours un moi socialisé, hein. Et ces écroulements de la persona sont le sujet de nombreuses œuvres. On pourrait même dire que la fonction de ces œuvres, c'est précisément l'écroulement de la persona, le fait de montrer sa fragilité. Prenez par exemple les romans de Simenon, hein, grand romancier. Simenon nous montre un homme nu, dépouillé de ses oripeaux sociaux, hein. Il se dénude à l'occasion d'une crise qui fait la matière de pratiquement tous ses romans. Et crise veut dire jugement, en grec krisis. Hein. Dans le grec évangélique, krisis c'est le jugement, y compris le jugement dernier. Donc, il arrive un moment où un homme bien inséré socialement, mais devenu insincère par le fait qu'il était inséré, insincère, hein, donc hypocrite, hein. À ce moment-là, l'homme subit sa crise et il va tout détruire. Alors voyez par exemple En cas de malheur, hein, le film d'Autant Lara qui est adapté de Simenon, d'un roman de Simenon, un remake a été fait en 1988 qui s'appelait En plein cœur. Hein. Il s'agit d'un grand bourgeois qui rencontre son anima, hein, l'archétype de la femme idéale justement pour reprendre de la terminologie jungienne et qui d'un seul coup va mettre en péril toute sa vie sociale. Il va tout abandonner, tout détruire sa réputation pour suivre justement cette femme qui va le détruire. Hein. Je pense par exemple au roman aussi de Pierre Louis qui s'appelle La femme et le pantin, hein, et qui a été repris par Buñuel dans son film Cet obscur objet du désir. Hein. Le bourgeois, donc le grand bourgeois rencontrant l'anima va au devant de son destin. Il y a même une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Monsieur Williams, hein. Monsieur Williams, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 1ème avenue? Voyez, je cite de mémoire. C'est-à-dire qu'un homme, un bourgeois, bien socialisé, d'un seul coup, eh bien, va créer le destin, en attaquant un malfaiteur à coups de parapluie pour défendre une jeune femme. Vous voyez, finalement, cette chute, la chute sociale, est très très fréquente. Je disais dans une émission précédente que nous étions un funambule qui marchions entre des gouffres et que c'était miracle que nous ne tombions pas davantage, hein. Eh bien, oui, c'est vraiment un miracle, hein. La chute des masques sociaux a été illustré par Albert Camus dans un récit qui s'appelle précisément « La chute ». On y voit un homme qui a été un juge et qui d'un seul coup se rend compte que toute sa vie n'a été qu'imposture et que la justice des hommes n'avait rien à voir, par exemple, avec la vraie justice, vous voyez. Donc, il faut tenir compte de cette dualité. L'homme est double, hein, comme une médaille a un côté pile et un côté face, hein, ou comme une vallée en montagne a un adré et un ubac, c'est-à-dire un versant éclairé et un versant dans l'ombre, il y a en nous cette duplicité. Alors, nous pensons que dans notre langage, il y a toujours du conscient, mais ce n'est pas vrai. À côté du langage que nous pensons ordinairement être le nôtre, un langage conscient, maîtrisé, il y a, je dirais, un métalangage qui contredit le précédent, hein, et qui nous montre des tropismes secrets de notre être, des orientations intimes de notre âme, voyez, les attraits de l'ombre, ou l'autre côté, l'envers ou l'avers de la persona. Derrière toute conversation, il y a une sous-conversation, en quelque sorte, et rien n'est innocent, hein, et tout comportement, même incompréhensible à la raison, à une finalité qui souvent échappe à cette raison. J'ai cité le livre de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, mais aussi je vous renvoie au livre de Nathalie Sarotte. Par exemple, dans l'ère du soupçon, elle oppose la conversation et la sous-conversation. Ou bien encore, dans l'usage de la parole, elle montre que derrière des paroles anodines, il peut y avoir des enjeux beaucoup plus graves qui se jouent. Il y a une pièce aussi de Sarotte qui s'appelle « Pour un oui, pour un non ». Pour un oui, pour un non, tout peut éclater dans une vie, vous voyez. Voyez par exemple la scène de ménage chez Feydeau, chez Georges Feydeau. C'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois extrêmement comique et extrêmement tragique. On peut voir que pour un oui, pour un non, hein, un couple peut éclater, hein. Sarotte nous dit dans « Pour un oui, pour un non » que le gendre ayant dit à sa belle-mère « Je n'aime pas les carottes râpées », la belle-mère qui avait préparé ses carottes râpées avec amour pour son gendre, se sent complètement défaite, détruite, déconstruite, vous voyez. Et donc, à partir d'une parole apparemment anodine, eh bien, une catastrophe peut s'enclencher, hein. Alors, voyez aussi les pièces de Ionesco, par exemple, la cantatrice chauve, hein. J'ai cité aussi dans une émission précédente Ubu Roy de Jarry, hein. Les masques, ils sont arrachés complètement, hein. Prenez une réplique comme « Mère Ubu, vous êtes bien laide aujourd'hui, serait-ce parce que nous avons du monde ?» Eh bien, ça fait effectivement éclater tout le conformisme social. En effet, le dressage des animaux humains ne s'effectue jamais sans problème. Ce dressage va faire l'impasse sur le spontané, sur le naturel, hein. Alors supposons, par exemple, un individu bien inséré socialement, bien élevé, comme on dit, se contrôlant toujours. On dit aujourd'hui BCBG, bon chic, bon genre, etc. Bon, cet individu peut rêver alors d'un clochard vomissant dans le ruisseau, hein, et identiquement, une femme très comme il faut peut rêver d'une prostituée vulgaire sollicitant les passants sur le trottoir, vous voyez, hein. Un individu viril, un militaire par exemple, peut voir en rêve un travesti outrageusement maquillé cherchant à l'embrasser, etc., hein. Donc si ces rêves sont récurrents, on peut dire que ces personnes rencontrent leur ombre, sont confrontées à leur ombre, et il importe au plus haut point de savoir dialoguer avec l'ombre, hein. L'ombre, c'est ce dont on a le plus peur, mais aussi ce qu'on désire le plus. Le paradoxe ici n'est qu'apparent, car on a vu déjà, à propos du langage symbolique, que la logique symbolique unit très souvent des choses contraires. Il arrive que la peur et le désir soient une seule et même chose, et il faut ici abandonner la logique. On dit très bien qu'en psychanalyse, la négation n'existe pas. Autrefois, il y avait une pub qui disait « vit-elle, pas vit-elle ». Eh bien, « vit-elle, pas vit-elle » est ignoré justement de la psychanalyse. Si on ignore justement cette règle, l'homme va se livrer pieds et poings liés à son ombre, il va devenir la proie pour l'ombre, vous voyez. Tenez compte justement de l'importance de cette ombre. Et là, pour plaisanter, je vais vous donner une devinette carambar. Je la suis et je ne la suis pas. Qui suis-je? Eh bien, la réponse, c'est mon ombre. Parce qu'il y a un jeu de mots ici sur le mot suivre, d'abord, et être. Je la suis et je ne la suis pas. Vous voyez, voilà. Alors, je viens de parler du rêve. Nous en parlerons plus longuement dans une émission suivante, mais je vais quand même poser quelques jalons. Le rêve, disait Freud, c'est la voie royale qui nous donne accès à l'inconscient. Alors, je dirais avec Jung qu'elle est d'abord le premier chemin qui mène à notre ombre. C'est dans nos rêves que nous pouvons détecter notre ombre. Toutes les cultures traditionnelles ont valorisé les rêves. On a toujours soupçonné que les rêves contenaient une raison beaucoup plus profonde, c'est-à-dire beaucoup plus large que l'autre. Les scénarios sur l'existence que les rêves contiennent forcent l'esprit à élargir son horizon. La vie des rêves est un réservoir inépuisable de possibles qui contraste avec la vie ou la vision bornée, étroite, unilatérale du moi conscient. Il y a entre la seconde et la première le rapport qu'il y a entre l'île et l'océan qui l'environne, ou le rapport qu'il y a entre la partie émergée d'un iceberg et sa partie immergée. Vous savez que la partie immergée est beaucoup plus importante en volume que la partie émergée. Je crois que c'est 4/5 à peu près de l'iceberg. Donc le rêve n'est pas une illusion, comme le croient les positivistes, mais une révélation. Une révélation sur quoi? Sur les possibles de la vie que nous avons éliminés ou que la société à laquelle nous appartenons a éliminé. Le rêve, c'est la réhabilitation pour chacun de son ombre, de l'ombre personnelle et aussi de l'ombre collective, de l'ombre de la persona sociale. Donc, de ce que l'homme a refoulé, ce que l'idéologie sociale dans l'homme a refoulé, va ressurgir dans le rêve. Le rêve valorise ce que le conscient méprise, comme l'art et l'expression en général valorisent ce qu'une société méprise. Et il me semble que le rapport du rêve et de la vision consciente est un rapport de compensation, de correction ou de complémentarité, vous voyez. Prenons un exemple. Dans un voilier, quand le vent fait pencher le mât d'un côté, la quille penche dans l'autre, vous voyez. Donc toute orientation unilatérale met en péril l'équilibre. Il faut donc rétablir cet équilibre. Par exemple, il n'est pas rare qu'un timide se voit en rêve en train de parler en public avec aisance, avec assurance, et à l'inverse, il n'est pas rare que celui qui est sûr de lui-même se voit en rêve en train de bafouiller. Le timoré aussi va voler en rêve, tandis que celui qui est hardi va tomber. Ce sont des rêves de compensation. Alors vous voyez que définir le rêve comme la réalisation d'un désir non avoué, comme le faisait Freud, ne me semble pas suffisant. Car qu'est-ce qu'on va faire alors du cauchemar, qui est une sorte d'électrochoc de la nature, vous voyez? Dans les rêves, j'ai remarqué que les appréciations que nous portons sur les autres sont souvent corrigées. Par exemple, une personne que nous admirons beaucoup dans notre conscient apparaîtra en rêve rapetissée, et une personne que nous négligeons dans notre conscient apparaîtra en rêve grandie. Donc l'inconscient nous invite à la prudence, il nous invite à nous méfier des appréciations, des valorisations ou des dévalorisations excessives. Et de la même façon, des notions que nous opposons le jour apparaîtront la nuit comme complémentaires. Par exemple, une conscience morale trop rigide, un moi social trop développé, campé sur des certitudes ou sur une idéologie trop stricte, dans le cas d'un personnage qui serait psychorigide, par exemple. Finalement, cette conscience peut faire des rêves de transformation, des rêves d'indécision. Dans ces rêves, le blanc se changera en noir, le noir se changera en blanc, etc. Un personnage se changera en son contraire, son vêtement va se métamorphoser, etc. Donc le personnage va passer de la sphère lumineuse à la sphère obscure, etc. Vous voyez ? Donc je dirais que le rêve ouvre sur d'autres scénarios que celui du moi conscient. La personnalité consciente, pour prendre une métaphore, elle est ordinairement inscrite en ROM. C'est-à-dire, ROM, c'est l'acronyme de Read Only Memory, c'est-à-dire mémoire inscrite, seulement en lecture, mémoire seulement en lecture. Tandis que le rêve serait de la RAM, Random Access Memory, c'est-à-dire quelque chose de volatile, de plastique, de toujours nouveau, qui nous invite à corriger nos appréciations conscientes. Par exemple, nous sommes d'habitude manichéens, nous opposons dans la vie éveillée le bien et le mal. Eh bien, des rêves nous montreront qu'il faut unir bien et mal, et que là où nous mettons « ou », il faut mettre « et ». Donc, la vie, c'est comme un échiquier. Nous passons de case en case, de case blanche en case noire, et inversement. Donc, l'alternance universelle des choses et le mélange des opposés que l'on voit en rêve peuvent éviter donc la stase, la stagnation. Une stase, par exemple, dans une névrose obsessionnelle de perfection et dans une survalorisation de la morale. Donc, le rêve peut ainsi guérir une personnalité psychorigide en complétant ces scénarios. Car un des secrets de la vie, c'est une ambiguïté axiologique fondamentale, un partage des valeurs. Il est bien sûr humain de chercher à séparer les bons et les méchants. Le petit enfant aime qu'on lui simplifie ainsi les jugements. Les contes qu'aime le petit enfant se conforment à ce modèle. Ces contes sont manichéens. Cependant, cette position manichéenne, elle est extrêmement artificielle. Je prends un seul exemple, le personnage de Saint Paul. Avant que Saint Paul ne devînt apôtre et converti, il persécutait les chrétiens. Et puis, après la fameuse scène du chemin de Damas, Saint Paul s'est mis à... celui qui devait devenir Saint Paul, Saül, Paul après. Il se mit à défendre les chrétiens, et il a mis à cette défense autant de zèle qu'il avait auparavant mis à les attaquer, vous voyez. Alors, dans quelle catégorie classerez-vous Saint Paul ? Parmi les méchants ou parmi les bons ? Les rêves de transformation ou d'ambiguïté qui sont si fréquents montrent l'insuffisance des schémas sommaires et simplificateurs. Il y a une scène du film de Henri-Georges Clouzot qui s'appelle Le Corbeau, qui est très intéressante à cet égard. Dans cette scène, le docteur Vorzé, qui est joué par Pierre Larquet, montre au docteur Germain, qui est joué par Pierre Freinet, que le bien et le mal s'interpénètrent en agitant la lampe qui éclaire la pièce où ils se trouvent. Aussitôt qu'on agite la lampe, les zones d'ombre et les zones de lumière dans la pièce se mettent à danser. Ces zones dansent sur le sol, et elles se mêlent et elles se confondent. Alors cette scène est symbolique au plus haut point, elle est très profonde. Il s'agit de déstabiliser l'esprit de chacun de nous, qui souvent est très simplificateur. Et à l'aurore de leur culture, les Grecs ont eu cette intuition profonde d'un partage absolu des valeurs. L'Iliade nous montre un partage égal des dieux en deux camps. Les uns soutiennent les Grecs, les autres supportent, comme on dit aujourd'hui, les Troyens, vous voyez. Alors vous voyez, voilà le sens de ce symbole. Le monde est mêlé, mélangé, rien n'est absolument bon ou mauvais. Et à partir de là seulement, on pourra comprendre ensuite que ceux qui s'opposent coopèrent, comme disait Héraclite, et que la lutte des contraires engendre l'harmonie. Mais il ne faut pas bien sûr poser l'harmonie au départ, hein, on parle à ce propos, à propos d'Héraclite, de coincidentia oppositorum ou de concordia discors, c'est-à-dire, ce sont des mots latins qui veut dire coïncidence des opposés ou harmonie des contraires, vous voyez, hein. Alors, il y a une erreur, bien sûr, à poser l'harmonie au départ, hein, ce qu'on appelle l'irénisme, du grec airene qui veut dire la paix, hein, l'irénisme de la modernité, hein, la vie est un long fleuve tranquille, ou bien tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Monde des bisounours, hein, pose l'harmonie au départ, mais l'harmonie elle n'est jamais préétablie, hein. Il faut la découvrir par auto-examen, par auto-enquête en quelque sorte. Alors à propos du polythéisme grec, je fais une remarque ici, c'est que le polythéisme qui atomise ou qui divise les valeurs est psychologiquement, à mon avis, mais là je n'engage que moi, quelque chose de comment dire de plus intéressant que le monothéisme, hein. Le monothéisme au contraire, qui ne pose qu'un seul dieu, mène très souvent au manichéisme et au fanatisme. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas choqué avec cette dernière remarque, faisons en sorte que notre monothéisme soit plus nuancé, en quelque sorte, et admette cette ambiguïté axiologique ou ce partage des valeurs. Voilà, nous continuerons cette réflexion sur le rêve et sur l'inconscient lors des prochaines émissions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.